Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Léor Echem Tomu Shanim Naimim. Nous poursuivons notre lecture du livre exceptionnel Zera Shimshon, de l'illustre maître Rabbeinu Shimshon Chaim Nachmani Zichoto Tagen Alenu. Nous sommes Parashat Shemot Darush 6. Qu'est-il dit dans le Passouk? Voilà, il y a marqué Vatar Aisha Vatelet Ben. Cette femme conçue, donc la mère de Moshe, et enfanta un enfant. Elle vit, va terre en tant qu'itovu. Elle a vu qu'il était bon et le cacha pendant 3 mois. Après, elle ne pouvait plus le cacher. Velo yachla od atsefino, va tikahlo tevat gome. Alors, ne pouvant plus le cacher, elle prit un berceau de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Donc elle a isolé le berceau. Elle y mit l'enfant et déposa le berceau sur les rives du fleuve. Après, plus loin, il est dit que la fille de Pharaon, elle est descendue pour se baigner avec les filles qui l'accompagnaient, les suivantes. Et elle aperçut le berceau parmi les roseaux. Et elle a remarqué là qu'elle a envoyé sa servante. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vatifta! Elle a ouvert le berceau. Va tirer où est Ayelet? Elle a vu, lui, elle vit, elle y vit, l'enfant, et voici un garçon qui pleure. Alors, le Midrash, la Gemara, elle dit dans Sota, à la page 12, elle prit le berceau en jonc. Donc, elle a fait un berceau, Yochevet, elle fait un berceau de jonc. Pourquoi a-t-elle choisi la Gemara donc? Pourquoi a-t-elle choisi le bois de jonc? Il n'est pas le meilleur des bois. Il n'est pas le plus solide. Rabbi Eliezer dit: Mikan she tzadikim haviv aleihem mamonam yoter migufam. De là, on apprend que les tzadikim y prennent plus garde à leur argent qu'à eux-mêmes. Après, il est dit, elle enduisit de bitume et de poids. Elle a mis du homer et du zefet. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Du bitume à l'intérieur et des poids à l'extérieur. Afin que le juste, que le tzaddik ne soit pas incommodé de la mauvaise odeur du poids. Le poids, ça sent fort. Rashi ramène ça dans le pasouk. Rabotenu à Tosafot rapporte que le poids et le bitume étaient enduits à l'intérieur du berceau, l'un sur l'autre. D'abord le poids, parce que ça sent mauvais, ça permet l'étanchéité, et au-dessus, elle a mis du bitume, afin que le juste ne soit pas incommodé par l'odeur. Mais à l'extérieur du berceau, il n'y avait rien. Il est resté le jonc brut. En effet, pourquoi? De sorte que personne n'y prête attention, nous dit Tosafot. En effet, le bois de jonc ressemble au bambou qui pousse dans le fleuve. C'est comme ça que les Tosafot, ils disent. D'après cette explication de Tosafot, s'il en est ainsi, comment Rabbi Eliezer il peut dire que le bois de jonc a été choisi parce qu'il est moins cher et que les justes prennent garde à leur argent plus qu'à eux-mêmes? Le choix de Yochevet, il s'est porté sur le bois de jonc uniquement. Je peux dire que pour que le berceau passe inaperçu qu'on l'attrape pas. Pour comprendre ça, voilà qu'il est dit plus loin. Quand Akash Baruch Hu se dévoile à Moshe, que lui dit-il? Il lui dit, et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Le pasouk dit, ve'ata lecha, ve'ishlachacha el pharaon, ve'otit ami ben Israël mitzraim, et va faire sortir mon peuple d'Égypte. Le mot lecha, il est écrit de manière un peu inhabituelle. Il y a un hé à la fin du, normalement, l'air. Lecha va, alors je dis lech, j'aurais dit ve'ata lech, ve'eshlachacha el pharaon. Pourquoi il dit lecha? Avec une forme féminine, avec un he à la fin. La metchav he. Au lieu de dire la metchav sophit. Le mot va est construit avec un he, nous disent Rabotenu, le Midrash, qu'il lui dit, il est ce he là, il est cité ici. Mentionné pour dire que si toi, Moshe, tu n'y vas pas, nul autre ne pourra le faire à ta place. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il que Moshe qui est à même de sauver Israël? Alors, est-ce que c'est le mérite exceptionnel de Moshe? Voilà que cette délivrance, elle pourrait se produire à un autre moment, une autre génération. Et à chaque génération, n'y a-t-il pas des hommes de valeur qui sont aussi méritants que Moshe? Voilà qu'il est dit au sujet de Shmuel. Moshe ve Aaron ve Kohanav. Moshe, Aaron et les Kohanim. Et Shmuel ve Koré Shemo. Shmuel, à lui seul, il a autant de mérite que Moshe, Aaron et les Kohanim. Donc on voit qu'il s'agit de Moshe parce qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit de niveau prophétique. Parce que la prophétie de Moshe est le plus grand de tous par rapport à la prophétie. Il est unique dans sa prophétie. Mais dans le mérite, il peut avoir à chaque génération quelqu'un de méritant, de la même dimension que Moshe par le mérite. De sorte qu'on peut dire que la raison pour laquelle la présence de Moshe est indispensable pour le salut d'Israël, elle n'est pas uniquement son mérite. Elle est ailleurs. Alors que la question, elle est, quelle est cette dimension particulière? C'est quoi le hanyan particulier qui se trouve en Moshe? Et qu'il n'y a que lui qui peut sauver Israël. C'est lui qui a entre ses mains la clé du sauvetage d'Israël, de l'oppression et de l'esclavage d'Égypte. Alors pour arriver à comprendre ce sujet, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que l'Égypte. Alors le mot Mitzrayim signifie Metzariam, les limites. Comme si l'Égypte entière est une prison fermée, inaccessible. On ne peut pas en sortir. Comme si que les contours de cette terre n'étaient que les morts d'un étau qui se referme sans cesse sur ceux qui sont emprisonnés. Nul ne peut en y réchapper. Donc, et c'est doublement le metzer, les metzarim, les limites, ils sont doubles. Ils sont physiques et spirituels. Non seulement physiquement, les gens ne peuvent pas sortir d'Égypte. Physiquement, ils n'arrivent pas à franchir les murailles qui entourent ce pays. Comme on va le voir pour beaucoup de raisons. Mais il y a aussi un autre degré, une autre dimension dans l'esclavage. C'est que les Égyptiens sont parvenus à convaincre les esclaves qu'ils ne peuvent être que esclaves. Donc eux-mêmes ne croient pas à leur délivrance. C'est ce que Chachamim disent, ils sont arrivés au 49e degré d'impureté. Ça, c'est la notion qu'il y a en Égypte. Alors comment, d'où l'Égypte tire-t-elle cette puissance de domination, de faire en sorte que c'est un pays qui renferme ceux qui sont enfermés, qui ne laissent pas sortir, et qui va convaincre les serviteurs, les esclaves, d'être totalement esclaves à la matérialité de l'Égypte. En effet, le Hénian ici, il est que la création du monde se fait par le Shem Elohim. Comme il est dit, Bereshit, Bara Elohim, et Hashem et Betaret. Ce nom Elohim va apparaître 32 fois dans la création du monde. Ce nom-là, c'est celui de la domination des règles fixées dans les lois de la nature. La nature, le monde, Olam, comme disent Chachamim, Olam, Keminago, Noeg. Le monde est régi par des règles et des lois de la nature qui sont immuables, qui sont éternelles, qui sont là pour durer. Et on voit que le monde ne change pas. Et c'est le nom Elohim, c'est un nom kadosh, c'est le moyen, c'est l'intermédiaire par lequel le Créateur va créer ce monde. Donc le nom Elohim a 5 lettres. Donc si on a 5 lettres, on peut permuter les lettres 120 fois. Il y a 120 combinaisons possibles, comme il est dit dans la Mishnah du Sefer Yetzirah. Toutes ces combinaisons du Shem Elohim créent les règles de la nature. Les différentes règles qui font que le monde est ce qu'il est et qu'il persiste et qu'il perdure, etc. La destinée des créatures aussi. Ce qu'on appelle les mazal, le mazalot. Là réside toute la puissance de l'Égypte et de sa domination. Ce qui se traduit par la maîtrise des astres, les 12 signes du zodiaque et toutes les constellations qui dirigent le monde, qui vont faire les événements, la destinée de chaque individu. Ce que Chachamim nous dit, les mazalot. Mais dans Israël, El Mazal et Israël. Israël est au-dessus de cela. Mais en Égypte, ils étaient dominés. Il faut sortir d'Égypte pour se mettre au-dessus des Mazalot, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait pour Abraham. Il a pris dessous les astres et il a mis au-dessus. Sous les astres, Abraham n'a pas d'enfant. Il n'aura des enfants qu'en étant au-dessus des astres. Le Zohar considère qu'il y a 70 nations. Il faut ajouter à ces 70 Esav et Ishmael, qui sont les chefs des nations. Donc il y a deux chefs, Esav et Ishmael, et chacun domine 35 peuples. Pharaon concentre en lui toutes les forces des autres 71 nations. Et lui-même, il est la 72e, mais il englobe les 71. L'ange protecteur, chaque peuple, il a, chaque nation a un ange protecteur, s'appelle Elohim. De sorte que si on a 71 fois Elohim, donc dans la combinaison de 71 fois le nom Elohim, chacun pour chacun des peuples, il y a 5 fois 71, ça fait 355 lettres. C'est la valeur numérique du mot Pharao. Pharao, valeur numérique, 355, Shana. De ce nom dérive, comme nous l'avons dit, 120 compositions. Pharao, lui, domine 71 de ses compositions. Combien en reste-t-il? Il en reste 49, qui font référence aux 49 lettres des noms des 12 tribus. Quand on voit au début de la paracha, Ve'ele Shemot ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte avec Yaakov, alors on les cite, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc. Quand on compte le nom de ces, on compte les noms des enfants qui sont descendus en Égypte, on trouve 49 lettres qui font référence aux 49 lettres, aux 49 compositions qui restent sur les 120. Les noms eux-mêmes contenant la délivrance, comme dit le Midrash. Ve'ele Shemot b'nei Israël, Abaim Mitzrayima, dont leur nom est enfoui la délivrance. Elle contient en eux les lumières de la délivrance et la raison de la délivrance. Que fait Moshe? Moshe, à quel âge il se présente devant Pharaon? Quand il a 80 ans. Moshe ben Shmonim Shana be'amdo lifnei Paro. 80 ans, c'est 80 lettres. 80 lettres du Shem Elohim. Il les a pris de Pharaon. Be'amdo lifnei Paro. Il enlève à Pharaon les 350 lettres qu'il avait. Il lui enlève 80, il lui en reste 275. Donc ça fait 16 compositions. Quand on prend 80, on divise par 5, il reste 16. Donc maintenant, Israël, ils avaient 49 compositions plus 16, ça fait 65. 65 références au nom de Dieu, Adanout, Adon, Ado, plus loin Naï. Que reste-t-il entre les mains de Pharaon? 275 lettres. Valeur numérique de Ra'a. C'est ce que dit Pharaon quand Israël sort. Il dit, Réhou, qui est Ra'a, vous voulez partir? Mais regardez, Ra'a, je vois qu'il y a le malheur qui vous attend. Qui est Ra'a, neged penechem. Et lui, Pharaon ne savait pas que ce Ra'a-là, il se retourne contre lui. Donc on voit que le Séné lui-même, la vision du Séné, Ha-Séné, ça a une valeur numérique de 120. Hé, sa mère, 65. Nun He, 55. C'est 120. Le Séné fait référence aux compositions, aux 120 compositions du Shem Elohim, qui maîtrise toute la nature, toute la création, l'histoire de l'humanité. Alors, combien de compositions possède Israël et combien de compositions, la maîtrise des compositions des noms, possède Pharaon? Pharaon, il n'en possède plus que 55, alors qu'Israël en possède 65. À partir de 49, nous avons dit, plus 16 que Moshe lui a pris. Donc il a maintenant 65. C'est pour ça que Bnei Israël, ils vont pouvoir sortir. De sorte que, pour sortir d'Égypte, pour aller libérer les Bnei Israël d'Égypte, il faut être de la qualité, quelqu'un de la qualité de Moshe qui est au-dessus de l'influence des astres. Il est au-dessus de tout cela. Donc c'est indispensable pour sortir de l'oppression et de l'influence des astres. Et alors cette particularité d'exception qui se trouve que en Moshe, comment le sait-on? C'est parce que sa mère dit « Vatere oto kitovu ». La mère vit, sa mère vit qu'il était bon, lui-même bon, tov. C'est quoi? C'est le mazal tov. Il est de la qualité de tov, c'est-à-dire bien absolu. Rien de mal ne peut lui arriver. Le bon parfait en lui-même et pour les autres. C'est le drouche. Il est que ici il est marqué tov et dans la lumière de la création il est dit vayar Elohim et haor ki tov. La lumière était bonne, la même qualité. Et là-bas, il s'agit du Or Haganouz, la lumière parfaite de la création. Donc le mot Tov se retrouve. Donc c'est cette lumière-là qui s'est remplie, qui a rempli la maison. Elle a vu Vitmala à Baït Koulora. Alors c'est ça que vit Yochevet. Alors comment on voit ça? On dit va Vatéré, elle a vu. Vatéré, le Vav, c'est un préfixe. Téré, c'est 601. Qu'est-ce qu'elle a vu avec lui? La fille de Pharaon aussi, il est dit qu'elle a vu. Elle a vu. Le même thème est employé pour Yochevet qui voit son fils et pour Batia qui voit, qui ouvre le berceau et voit Moshe. Va tirer où est Ayeled? Les deux termes, va tirer où? Elle a vu Shekhina imo. Shekhina, Shin, Kaf, Yod, Nun, He. Valeur numérique 385. Quand on remplit les noms à l'intérieur, le Shin, on va écrire Shin, Yod Nun. Le Kaf avec un Fé. Le Yod, Yod Vav Dalet. Nun, Nun Vav Nun. Le He, He Yod. Les lettres intérieures, nous avons dit les lettres extérieures en valeur numérique de 385. Les lettres intérieures en valeur numérique de 216. 216, c'est la valeur numérique de Gevura, la puissance, la crainte, le lion. C'est l'expression de la puissance totale de d'Akadosh Baruch Hu. La Shekhina, dans sa puissance, quand elle se développe, elle se dévoile à l'intérieur d'elle, c'est la Gevura qui est à l'intérieur, qui lui donne toute son ampleur. 385 plus 216, ça fait 601. C'est la même valeur numérique. Et cela même, c'est cela même qu'a vu Batia Batpano en ouvrant le berceau. Va tirer où? Va tirer où? C'est quoi va tirer? Va tirer plus loin où? Va Evav. Allusion à la Shekhina. Le Evav, c'est du nom de Dieu, du Shem Havaya. C'est Evav. Evav, c'est Moshe. Qui est Baala de Matronita. Il symbolise la Torah écrite. C'est le Vav du Sefer Torah. Le Sefer Torah est comme un Vav. Et le He, c'est la Shekhina. Donc il est le Baala de la Shekhina. Donc elle a vu dans Moshe, Vaterehu, elle a vu le lien intime qu'il y a entre Moshe, la particularité de Moshe, la lumière qui émane de lui, le rayonnement de sa personne et la Shekhina. Il y a une union intime entre les deux. Et c'est ça que le mot va Vatere fait allusion. Tere, 600, Tavre, 600, allusion aux 600 000 âmes d'Israël qui sont liées à Moshe. Comment? Tavre, c'est 600, et le Aleph, il fait allusion au Aleph, 600 000. Allusion aux 600 000 lettres de la Torah, chaque âme d'Israël est liée à une lettre de la Torah. Alors tout ça, elle le voit. Donc c'est pour cela que il n'y a que Moshe qui peut sauver âme Israël. Les mazalot, les contingences matérielles de la création, les règles des lois ne s'appliquent pas à Moshe, il est au-dessus de tout cela. La question qui se pose, est-ce que cela marche aussi sur l'eau? Est-ce que Moshe, il est intouchable par la puissance des eaux ou bien non? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors pourquoi? On voit que les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, le Moshiach chez l'Israël, Nilka Bamaim, le sauveur d'Israël sera frappé par les eaux. La mer elle-même, les flots, la mer elle-même refuse de s'ouvrir devant Moshe, comme nous dit le Midrash. Et c'est quand elle lui dit, tu ne peux pas, je ne suis pas prête à m'incliner devant toi. Je ne m'ouvrirai pas devant toi. Devant toi, elle lui dit. Les fanecha. Il dit le Midrash, c'est qu'à ce moment-là, quand Kadosh Baruch Hu a mis sa droite sur la droite de Moshe, la mer s'est soumise. On voit quoi? On voit que même l'eau, elle sait que Moshe, il domine même l'eau. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, Yochevet, elle savait que le mazal de Moshe n'avait pas a priori de maîtrise sur les eaux. Et pour ne prendre aucun risque, elle préféra le mettre dans le berceau. Là où le danger est certain, on ne peut pas s'appuyer et compter sur un miracle. Ben, ma com sakana, elle s'en prie malanès. Alors maintenant, la question, elle est, pourquoi avoir choisi un bois de moindre qualité comme le jonc? Elle aurait pu utiliser un bois plus solide. Cependant, nous avons dit qu'elle a fait ce choix pour que le berceau passe inaperçu, comme ils ont dit au Tosafot, que personne ne lui cause de mal. Ce qui, a priori, est étonnant. Le mazal de Moshe est bon, et personne ne peut lui causer de tort, ni lui nuire, alors que, puisqu'il a un mazal au-dessus, donc il n'y a pas à craindre qu'on s'aperçoive, qu'on porte le regard sur lui, qu'on va le prendre, etc. Il n'y a rien à craindre. Si on le voit, on ne le fait que du bien. Le seul élément qui aurait pu lui causer du mal, le nuire, c'est l'eau. Alors elle aurait dû le préserver. Elle aurait dû alors utiliser un bois de meilleure qualité et ne pas soucier du risque de qu'on l'aperçoit. C'est pour cela que Rabbi Eliezer, il dit, le choix du bois, c'est pour nous apprendre que « Haviv mamonam libéane à tzadikim termigoufa » que le tzadikim, ils prennent garde à leur argent plus qu'à eux-mêmes. Quand Moshe ordonne à la mère de s'ouvrir, elle refuse, n'est-ce pas comme on l'a dit. Alors comment c'est possible une chose pareille? Voilà que Moshe lui-même, il a fait des miracles, de nombreux miracles. Que Aaron lui-même, il a fait de nombreux miracles, lui-même il a frappé l'eau. Alors pourquoi la mère, elle refuse? Parce que la mère est certaine que Moshe n'a pas de puissance contre elle. C'est ce qu'elle pensait au début. C'est au début ce qu'elle pensait. Mais en vérité, elle s'est trompée, puisque Béhémet, Moshe a pris l'ascendant sur même les eaux. Alors, Mimela, on va comprendre la chose suivante. Alors, Rachid dit, quand Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, et Morela Aaron, n'était yatra à l'ayon. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, dis à Aaron de lever la main et de frapper le fleuve. Rachid dit, étant donné que le fleuve a protégé Moshe, et quand on l'a jeté dans le fleuve, ce n'est pas de sa main, ça convient pas que Moshe y frappe celui qui lui a fait du bien. Donc c'est pour ça que ni la plaie du sang, ni celle des grenouilles n'a été frappée, faite par Moshe, mais par Aaron. A priori, c'est pas juste ce que dit Rashi, puisque le fleuve n'a pas protégé Moshe, mais plutôt le berceau en jonc. Nous sommes bien obligés de dire qu'en fait, le berceau n'avait été d'aucun secours, en fait. Il n'avait aucune qualité. Le bois qu'elle a utilisé, il ne sert à rien. La seule chose pourquoi elle a mis le bois, elle a pris le jonc, c'est parce que c'était le moins cher. Donc, c'est bien ce que dit Rabbi Eliezer. De là-bas, on apprend. Parce qu'en vérité, en vérité, elle ne savait pas. Donc, elle a pris. Alors, pourquoi Moshe, il a été sauvé? Parce que Béhémet, au fond de l'affaire, il se dévoile en fin de compte que Moshe, son mazal, domine non seulement sur les terres, mais aussi sur les eaux. Et c'est ça le sens pourquoi Yochevet, elle a choisi du bois de jonc, non pas parce que le bois Atsego, il ressemble au bambou et qu'on peut pas le voir, on peut pas l'apercevoir et le reconnaître, mais parce qu'elle a voulu faire des économies. Maintenant, il s'agit de comprendre, Béhémet, c'est quoi ce concept que « Haviv mamonam » c'est-à-dire « Haviv alem » au terme « Gufa ». Ça veut dire qu'en fait, Yachol yot, que ce qu'on possède, c'est un keli, c'est tout ce qu'on possède, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, ce sont des moyens de sanctifier. Alors, notre corps, si on a la emouna, on va être comme ils disent les mekoubalim, la emouna, que Akadosh Baruch Hu, il va le sauver, elle est tellement forte que le miracle va se produire. C'est pas que elle a un doute sur est-ce que ça va se produire. La emouna, comme il dit Habakkuk, bah Habakkuk ve'aymidan ala hatzadik be'emunato yihye. Et c'est ça ce que Yocheved a fait en plaçant Moshe dans un berceau en Jean sur les flots. Elle a montré sa emouna, sa conviction qu'Akadosh Baruch Hu, il va protéger cet enfant. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. L'étude est consacrée pour l'Eloui Nishmat, Rochama Desi Kolet Batminet, Chaim Bar Simi, Mordechai Bariza, Benyamin Yaakov Bar Zwaritrut, Gabriel Eliaou Bar Penina, Yvette Halo Bat Juli, Zichonam Lechaye Olam. Pour la réfoie chez les mains, réfoie ta nefesh, réfoie ta gouf, de Haïm Bar Shlomit, de Shoshana Bat Nikolala, Asher Mesod Ba Mesoda, Régis Shlomo Bar Elian, Bracha Bat Haya Figel, Moshe Eliaou Bar Levana, Nissan Tzvi Bar Dvora, Yosef Yeshua Bar Esther, Sarah Rachel Bat Yehudit Esther, Yehudit Jenny Michel Bat Rachel, Haya Mushka Esther Bat Tzipora, Jocelyn Naomi Bat Esther, Amram Bar Yakut Kuta, Eliyahu Bar Freha, David Bar Saada, Tadur Bian Bat Naomi, Shimon Bar Josephine, Haim Bar Esther, Yitzhak Bar Chaya, Saada Bar Mesodi, Nathalie, וישאר כל חולי עמו ישראל. אנא אלנא רפן עליהם. אנא אלנא רפן עליהם. זכות המחבר תגן באדם. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה סנטה לונגבי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.